café de Sèvres. Au café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Anne-Cathy Graber et Michel Fédoux. Bonjour.
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 Anne-Cathy Graber, vous êtes pasteur ménonite consacré dans la communauté du Chemin Neuf, docteur en théologie. Michel Fédoux, vous êtes jésuite, docteur en théologie. Et vous êtes tous les deux co-titulaires de la chaire de théologie écuménique, et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. En effet, le mercredi 24 avril 2024, il se tient une soirée aux facultés Loyola Paris pour les 25 ans de la Déclaration commune sur la justification par la foi, avec également Emmanuel Sebolt, pasteur et présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, première femme à ce poste, et André Birmelet, pasteur et théologien luthérien, doyen émérite de la faculté de théologie protestante de la faculté de théologie de Strasbourg. C'est un anniversaire à propos d'un document écuménique signé à Augsbourg et datant donc du 31 octobre 1999. Vous interviendrez d'ailleurs tous les deux également à cette soirée, Michel comme intervenant et Anne-Cathy comme animatrice. Alors, qu'entend-on par justification exactement, Anne-Cathy?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité des croyants, qu'ils soient protestants d'ailleurs ou catholiques, ne comprennent plus ce que l'on entend par justification, justice de Dieu, être justifié. Cela ne veut plus dire grand-chose en fait. Autrement dit, ce terme de justification, pour beaucoup, ne renvoie-t-il pas à des débats d'un autre temps, d'une certaine manière, et réservé à des spécialistes ? Plutôt que une bonne nouvelle qui serait d'une brûlante actualité pour le monde et pour nous aussi. Alors, pour la plupart des croyants, il s'agit encore et toujours de querelles théologiques qui n'ont plus cours. Ce ne sont plus des vérités qui nous touchent vraiment. Or, au XVIe siècle, cette question a vraiment tourmenté la conscience des croyants. Et c'est un peu cela qu'il faut redécouvrir peut-être. Parce qu'en effet, la justification, ce mot et cette réalité ne peut pas nous laisser indifférents, parce qu'elle désigne la justification le don du salut. Christ lui-même est notre justification, et par la foi dans l'Esprit Saint, nous sommes accueillis définitivement par Dieu. Et qui dit accueilli sans condition, accueilli gratuitement et considéré comme juste. Donc c'est une bonne nouvelle que cette justification, elle n'a rien d'une querelle de temps ancien. Par grâce au moyen de la foi, nous sommes accueillis, pardonnés, recréés. Autrement dit, la justification dit la joie et la liberté du salut. Et c'est la raison pour laquelle ça ne peut nous laisser indifférents.
Michel ?
Oui, la question de fond, c'est la question du salut, effectivement, comme l'a dit Anne-Cathy. Il y a bien sûr d'autres mots pour parler du salut. Dans le Nouveau Testament, on parle du concept de libération, le concept de rédemption et d'autres encore. Mais la justification, c'est l'un des mots employés, en particulier par saint Paul. Au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, on lit ceci. « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. » Tous sont justifiés gratuitement par sa grâce. La justification, ça veut dire ça. Dieu nous rend juste gratuitement par sa grâce. C'est une manière de dire le salut.
Une manière de dire le salut, une manière de dire que nous sommes accueillis par Dieu. Mais pourquoi cette notion de justification est-elle historiquement au cœur des échanges entre catholiques et protestants ?
Pour Luther, en effet, la justification du pécheur était une question éminemment personnelle, éminemment existentielle. Cette question le tourmentait personnellement. Et au début, d'ailleurs, cette question l'avait amené, le conduit au bord du désespoir. Il se demandait sans cesse comment trouver un Dieu miséricordieux, comment trouver en moi-même la paix, le repos. Malgré ses efforts pour accomplir de bonnes œuvres, Luther n'était pas parvenu, ne pouvait parvenir à la paix intérieure. Au contraire, tous ses efforts l'avaient conduit donc au désespoir. Alors c'est la lecture de l'Épître aux Romains, le verset en particulier que Michel vient de lire, qui lui permet une sortie du désespoir et qui lui fait vivre une expérience profonde. En effet, Luther découvre alors que Paul parle de la justice. Quand Paul parle de la justice de Dieu, il ne veut pas affirmer que Dieu nous considère comme justes parce que nous nous sommes rendus justes à cause de nos bonnes œuvres, mais parce qu'il nous accepte comme pécheurs. Autrement dit, il ne s'agit plus de notre justice, mais de la justice de Dieu. Une justice que Dieu nous donne par les mérites du Christ, par seule grâce et sur la seule base de la foi. C'est le fameux sola gratia, sola fide. Alors, pour Luther et pour les réformateurs, la justification n'était pas une question parmi d'autres. Pour eux, et historiquement, on le vérifie, pour eux, c'était, je cite, le premier article de foi, l'article dit capital, à la fois guide et juge pour tous les autres domaines de la foi chrétienne. Donc, ce n'était pas un critère parmi d'autres, c'était le critère de la vie chrétienne et le critère de la vie de l'Église aussi. Pour Martin Luther, la justification est l'enseignement, l'article de foi qui fait tenir ou tomber l'Église. C'est dire la dimension existentielle de ce mot et non pas théorique. Alors du côté de la Réforme, on a considéré cette question comme étant d'une certaine manière le point de cristallisation de toutes les polémiques en fait. Et sur ce point, on peut dire que le christianisme occidental s'est divisé pendant plus de 4 siècles.
Ce que je voudrais dire pour ma part, c'est que la doctrine de la justification, c'est avant tout une doctrine paulinienne, une doctrine qui est inscrite vraiment dans le Nouveau Testament. Et du côté catholique au XVIe siècle, on a eu à cœur aussi de prendre en compte cette doctrine. Le Concile de Trente, qui s'est réuni à partir de 1545, a produit un document très important, un décret sur la justification. Alors souvent, on a opposé la doctrine du Concile de Trente et celle des premiers réformateurs. En fait, les choses sont plus complexes. Le décret du Concile de Trente sur la justification intègre vraiment tout ce qui est dit sur la justification par Dieu seul, moyennant la foi. Simplement, il est vrai que, réagissant contre un certain nombre de propos tenus par des réformateurs, il insiste davantage sur les œuvres que le chrétien doit accomplir. Mais aujourd'hui, avec le recul, on sait que, pour une part, cette opposition reposait sur un malentendu et qu'en réalité, il n'y avait pas de divergence fondamentale. C'est ça précisément qui rendra possible au XXe siècle la signature de la Déclaration d'Augsbourg.
Donc justement, Déclaration d'Augsbourg, cette déclaration commune sur la justification par la foi, en quoi consiste-t-elle exactement ?
Alors en fait, cette déclaration commune est le fruit évidemment de dialogues, de beaucoup de dialogues entre luthériens et catholiques, et elle est le fruit aussi d'une méthode bien particulière. Et moi j'aimerais m'attacher dans cette partie de la réponse d'abord sur la méthodologie particulière. D'abord, il faut tout de suite préciser que cette déclaration, elle ne synthétise pas ou elle n'harmonise pas des années de dialogue entre luthériens et catholiques. En fait, cette déclaration commune bénéficie et éprouve une méthode exigeante et fructueuse. On nomme cette méthode le consensus différencié ou différenciant. Alors, il y a comme 2 étapes ou 2 niveaux avec cette méthode. La première étape, c'est qu'on se met d'accord d'abord sur un consensus. On le formule ensemble avec les mêmes mots du côté luthérien et catholique. Et ce consensus, ce premier niveau donc, c'est un socle commun. Il joue le rôle de socle commun, un socle solide. Et donc, comme c'est un socle solide, eh bien, il peut supporter le deuxième niveau. Et sur ce deuxième niveau, eh bien, peuvent se faire entendre les différences d'approche et de sensibilité. Et cela dit quelque chose d'important du travail œcuménique. Le travail œcuménique ou un accord œcuménique, ce n'est pas dire la même chose les uns et les autres. Certes, c'est rechercher un consensus, mais celui-ci est un socle qui permet aux différences des 2 partenaires, ici luthériens et catholiques, de continuer à s'exprimer. Donc le consensus ne se contente pas de dire ensemble la même chose, il permet de porter les accents autres et il fait entendre, en l'occurrence, là pour cette déclaration commune, que le salut peut se dire en différents langages. Et cela va complètement à l'encontre, évidemment, de l'uniformité. C'est un reproche, un faux reproche que l'on peut faire à l'œcuménisme, mais ça va plutôt dans le sens d'une diversité réconciliée. Nous pouvons faire exprimer cette diversité et aller vers une réconciliation. C'est exactement ce que dit, en tout cas, cette déclaration commune.
Oui, en quoi consiste cette déclaration commune ? Peut-être c'est important de rappeler qu'elle a été rendue possible par le travail d'une commission internationale, la commission de dialogue entre l'Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale, une commission qui a été créée en 1967. Et cette déclaration commune, en fait, si on regarde comment elle est composée, c'est tout à fait intéressant d'observer qu'elle commence, elle s'ouvre, après le préambule, par quelques paragraphes sur le message biblique de la justification. C'est très important. Catholiques et luthériens ont à cœur de repartir avant tout de ce message biblique de la justification. Et à partir de là, la doctrine de la justification est formulée comme telle, et on a en particulier au paragraphe 15 une formule extrêmement importante. Nous confessons ensemble, donc luthériens et catholiques, nous confessons ensemble, c'est seulement par la grâce, par le moyen de la foi en l'action salvifique du Christ et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Cette déclaration commune est tout à fait centrale. Et alors, à suite de cela, viennent une série de paragraphes qui portent sur des questions telles que le rapport entre la loi et l'évangile, le rapport, la manière de comprendre la certitude du salut, la manière de comprendre les œuvres, mais tout cela selon la démarche qu'Ankati a exposée, la démarche du consensus différencié. On dit au fond quel est notre consensus fondamental sur chacune de ces questions, et ensuite on indique les manières diverses de formuler, de rendre compte de ce consensus fondamental selon nos diverses traditions.
On comprend bien l'importance de cette déclaration. On voit aussi la méthode, cette diversité réconciliée. Mais pourquoi n'a-t-elle pas suffi à résoudre les divergences, finalement, entre catholiques et protestants ?
Alors, évidemment, on peut invoquer la nécessité de la durée, du temps dont nous avons encore besoin, probablement, les uns les autres. Et ça n'est pas un argument facile que j'utilise là, parce qu'il est important de dire, il me semble qu'il en a fallu du temps pour que cet accord soit accueilli et signé de manière plus large, d'ailleurs, au sein du protestantisme. Je me situe pour l'instant au sein du protestantisme. En effet, les méthodistes ont accueilli officiellement ce document, puis ensuite la communion mondiale des églises réformées, et enfin les anglicans. Et ça n'est pas terminé. D'autres familles d'églises, d'autres communions d'églises protestantes se posent encore la question aujourd'hui. Il faut du temps, donc. Mais ce qui reste une question sensible aujourd'hui, me semble-t-il, concerne les conséquences, en fait, de la justification et les conséquences au niveau de l'Église, de la conception de l'Église, donc les conséquences ecclésiologiques de la justification. Et ce point me semble être le défi aujourd'hui. Il prend vraiment du temps, lui aussi, parce que c'est un point très sensible qui bien sûr, a à voir avec aussi les ministères, notamment. Alors, la question est de savoir si ce travail est vraiment en cours ou pas. Ça, c'est vrai. Est-il vraiment en cours ou pas ?
Oui, je crois que c'est déjà important de souligner que d'autres églises que l'église luthérienne se sont ralliées à cette déclaration, l'ont adoptée, hein, même en apportant éventuellement des précisions, des compléments. Donc ça montre que malgré tout, même si la déclaration n'a pas suffi à résoudre toutes les divergences, elle a eu une portée beaucoup plus large que si elle était restée limitée simplement à la Fédération luthérienne mondiale et à l'église catholique romaine. Mais surtout, comme l'a très bien dit Ankati, je pense qu'il y a d'autres questions très importantes qui restent à l'ordre du jour. Dans le dialogue œcuménique, on procède étape par étape. Là, on s'est attaqué à une question absolument centrale, la question du salut. Mais il est clair qu'il y a bien d'autres questions, les questions ecclésiologiques, la question des ministères et d'autres encore, qui font partie de l'agenda du dialogue œcuménique aujourd'hui encore.
On voit donc cette déclaration comme une étape. Mais pourquoi célébrer cet anniversaire, 25 ans ? Quelle actualité pour cette déclaration ?
Le résultat le plus important de la déclaration commune, la déclaration conjointe, est que chrétiens, catholiques et protestants peuvent rendre un témoignage commun et dire ensemble cette bonne nouvelle du salut. Alors pour dire l'actualité de ce salut, de cette justification, j'aimerais tout simplement citer les paroles d'une équipe de théologiens luthéro-catholiques d'Alsace-Moselle qui exprime ainsi l'actualité de la justification. Il souligne qu'en ultime analyse, nous ne sommes pas définis par ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réaliser et accomplir nous-mêmes, et nous ne sommes pas définis non plus par nos échecs. Avant que nous agissions, nous sommes de toute façon acceptés, approuvés, aimés. Nous sommes justifiés et nous ne devons pas, ou nous ne devons plus continuellement, nous justifier ni à nous-mêmes, ni devant les autres. Et c'est ainsi que nous devenons libres pour agir dans le monde. Et nous comprenons aussi peu à peu le sens de la gratuité dans cet agir. Donc ça me paraît être une actualité quand même tout à fait nécessaire pour aujourd'hui.
Pour ma part, je soulignerai deux points qui me semblent très importants. Le premier, c'est qu'avec cette déclaration commune sur la justification par la foi, des églises se sont engagées au plus haut niveau. L'Église catholique romaine, la Fédération luthérienne mondiale. C'est un acte dont le statut, dont la portée sont très très importants. Ce ne sont pas simplement des experts d'une commission œcuménique qui ont produit un document, ou plus exactement, le document qu'ils ont produit a été vraiment avalisé au plus haut niveau. Donc rien que cela suffit à justifier l'importance de la commémoration de l'anniversaire. Et le second point que j'ajouterais, c'est que l'intérêt de la célébration de cet anniversaire, c'est de remettre au premier plan la question de fond, la question essentielle du salut. Ça nous aide, au fond, la commémoration de cette déclaration nous aide à reprendre conscience de ce que signifie fondamentalement le salut en perspective chrétienne.
Le salut en perspective chrétienne, on a aussi déjà un petit peu entendu parler des enjeux encore restants du dialogue pour aujourd'hui, mais peut-être quels autres enjeux du dialogue, et puis surtout, qu'attendez-vous quand même de cette soirée organisée aux facultés Loyola Paris ?
Alors en fait, la difficulté des documents d'église en général et des documents œcuméniques plus particulièrement, c'est vraiment leur réception, la réception par les uns et les autres, par les croyants d'aujourd'hui. Alors cette soirée débat, tout simplement, est une invitation à faire œuvre de réception, œuvre d'accueil d'un travail de plusieurs décennies, comme Michel l'a expliqué tout à l'heure. Donc le dialogue œcuménique n'est pas réservé aux spécialistes, et c'est ce que cette soirée voudrait montrer ou dire. Et donc c'est à nous tous de faire cette œuvre de réception. Alors certes, c'est un travail exigeant, mais c'est un des enjeux d'une telle soirée débat.
Il me semble que cette soirée peut aider à reprendre conscience du fait que, selon la tradition chrétienne, et avant tout à partir de Saint Paul, comme je le rappelais tout à l'heure, tout vient de Dieu, et en même temps, je pense au mot de Saint Augustin, Dieu ne te sauve pas sans toi. Donc tout vient de Dieu, mais le croyant ainsi justifié par Dieu, moyennant sa foi, est un croyant dont toute l'existence doit être autant que possible cohérente avec ce don qu'il a reçu. Et au fond, si on arrivait à l'occasion de cette soirée à remettre en évidence ce paradoxe fondamental de l'existence chrétienne, je crois qu'on n'aurait pas perdu son temps.
Ne perdez pas votre temps, venez. Nous approchons de la fin de ce podcast. Un mot de la fin.
Je dirais volontiers ceci. Puisque la déclaration commune sur la justification par la foi a été adoptée, signée au plus haut niveau, pour ce qui est de l'Église catholique romaine et pour ce qui est de la Fédération luthérienne mondiale, on pourrait vraiment souhaiter qu'il puisse y avoir d'autres actes de même portée à propos d'autres sujets dans les années ou dans les décennies qui viennent. Ce serait très très important dans la perspective de la communion à laquelle nous aspirons tous.
Le mot de la fin, bien pour moi, ce serait aussi de redire cette espérance que les dialogues œcuméniques conduisent à ce que les autorités de nos églises s'engagent à la suite de ces dialogues et puis puissent les signer au plus haut niveau et donc engager les responsables d'église et non seulement les théologiens, bien sûr, qui rédigent ces textes.
Merci beaucoup Anne-Cathy Graveur et Michel Fédoux. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site des facultés Loyola à Paris, en ligne. Vous pouvez suivre en présentiel ou en distanciel. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.